La première, 16h-17h30.
Sérieux délire.
Sérieux délire, Cédric Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur que de vous retrouver cet après-midi encore, vous qui nous écoutez dans votre voiture, chez vous ou encore sur la plage, à regarder affectueusement vos enfants s'émerveiller devant leur château de sable ou leur étalage de fleurs en papier. Nous serons comme tous les jours ensemble pour vous détendre, mais aussi réfléchir à la place de l'humour dans notre société et voir ce que l'humour peut nous apporter dans ce quotidien perturbé. Notre invité du jour est un pur zineke, de père français, de mère britannique, il a longtemps vécu très très loin, avant de s'établir ici en Belgique pour le plus grand bonheur des lecteurs du Vif et de l'Écho, mais aussi pour nos oreilles sur la première. Il se définit non pas comme humoriste, mais comme dessinateur de presse. Nicolas Vado est notre invité et on est très content.
Sérieux délire.
Sérieux délire sur la première.
Bonjour Nicolas Vado.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah écoutez, ça va bien, c'est l'été donc ça va bien.
C'est un bon début, pleine préparation de votre premier recueil, on en parlera dans quelques instants, recueil qui sortira au mois d'octobre. Vous avez de nouveau fait appel au crowdfunding, on en reparlera dans quelques instants et les nouvelles sont plutôt bonnes.
Voilà, c'est mon premier recueil généraliste, ouais, c'est pas mon premier recueil, ouais. C'est mon premier recueil généraliste chronologique qui sortira en octobre, donc dans 3 mois.
Alors, je le disais en introduction, vous ne vous définissez pas comme un humoriste mais comme un dessinateur de presse. Et donc pour vous, un dessinateur de presse, c'est, et pas un dessinateur humoristique, c'est quelqu'un qui utilise l'humour comme un moyen parmi d'autres.
Oui, c'est-à-dire pour un dessinateur humoristique, l'humour est une fin, c'est-à-dire qu'il doit absolument faire rire. Ou même quand on est chroniqueur, comme je l'ai fait dans l'émission On n'est pas rentré pendant 3 ans, le but du jeu c'était de faire rire. J'ai fait quelques cafés serrés, je devais faire rire aussi. En tant que dessinateur politique, le rire est un moyen parmi d'autres, c'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire passer des idées, mais mon métier n'est pas de faire rire absolument, d'autant plus que je traite souvent des sujets extrêmement sérieux, tragiques ou glauques. Donc il y a un côté cathartique dans le dessin politique. On tend un miroir au lecteur et donc on incite à réfléchir sur ses opinions, ses croyances, mais sans pour autant vouloir absolument le faire rire. Maintenant, l'humour peut être une grande force aussi pour faire passer des idées, mais je ne me dis jamais, tiens, je vais dessiner là-dessus, je dois être drôle, parce qu'il y a des sujets qui arrivent dans l'actualité où je ne peux pas être drôle, parce qu'en tant que dessinateur de presse, je travaille sur tout ce qui vient. Un exemple qui me vient en tête, c'est au moment où il y a eu la catastrophe du bus de Sierre en 2012. Il y avait 28 morts, dont 22 enfants. Je n'allais pas faire de l'humour là-dessus, mais j'ai dû réagir sur l'événement. C'est en cela que je ne suis pas un dessinateur humoristique.
Alors, je vous ai demandé un lointain souvenir, un souvenir de votre jeunesse qui vous avait fait rire. Et vous m'avez parlé de Thierry Leluron.
Oui, je vais parler de Thierry Leluron parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup bougé, mais j'habitais en Haute-Savoie, dans les montagnes
c'est bien.
France. C'est très bien, mais c'est la province et donc on n'avait pas beaucoup de vedettes qui passaient. Et puis, il y avait une salle de spectacle dans la ville d'Annemasse qui était là où j'habitais. Et un jour, il y a Thierry Leluron qui est venu. Et donc, on était en 83 ou 84. Et c'était une grande star internationale, française en tout cas à l'époque. Et puis, il a fait ce show, je crois que c'est peut-être la première fois que j'allais voir quelqu'un sur scène ou avec mes parents. Et puis, c'était au moment où en France, François Mitterrand avait été élu en 81 et il avait fait du socialisme pendant 2 ans avec Pierre Mauroy. Puis il a viré Mauroy en 83 pour passer à la rigueur. Et ensuite, il a pris Laurent Fabius, qui était le jeune, frais et moulu Premier ministre, et qui était très agaçant. Enfin, il est toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais il était très content de lui. Et puis surtout, c'était quelqu'un dont on disait qu'il avait le cœur à gauche et le portefeuille à droite, puisqu'il venait d'une famille très riche et il avait instauré l'impôt sur la fortune, mais il avait bien fait en sorte que ça ne s'applique pas aux antiquités et aux œuvres d'art parce que sa famille en avait plein. Et donc, les humoristes de l'époque jouaient beaucoup là-dessus. Et puis, il y avait ce sketch de Leluron.
On va l'écouter.
Qu'on va l'écouter, qui s'appelle « Chez les Fafas ».
Eh bien, on l'écoute.
D'abord. Il y avait le père qui était antiquaire dans une belle artère qui vendait des latours, monsieur, puis des meubles signés à des privilégiés que son fils avait pas ruiné, ou du moins pas encore. Oh. Qui était fier comme un tabac de la carrière de Laurent, qui est le plus diplômé des stars de la télé, qui cause le mercredi
de nos emmerdements, avec Monsieur Lanzy dans le rôle du clown blanc. Cause de l'inflation, pis des restrictions. Faut vous dire, monsieur, que chez les papas, on ne dépense pas, monsieur, on ne dépense pas, on compte.
Thierry Leluron, chez les Fafa, est-ce qu'aujourd'hui vous retrouvez chez certains imitateurs cette verve et surtout cette conscience politique ?
Peut-être un peu moins. Et ce qui était fabuleux aussi avec ce sketch de Leluron, c'est que Leluron, il faut s'imaginer que le gars, il faisait 1m65, il ne ressemblait pas du tout à Brel, mais je peux vous dire que sur scène, quand il chantait chez les Fafa, pendant quelques instants, on avait Jacques Brel devant nous. Et ça, c'était fantastique. Et c'est vrai que si vous écoutez les paroles de ce sketch, c'est d'une férocité énorme. Et Leluron tapait à peu près sur tout ce qui bouge. Il était considéré comme un humoriste de droite, mais en fait, il tapait sur tout ce qui bougeait. Et c'est vrai qu'il y avait une conscience politique plus forte. Et il y avait peut-être une différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas le buzz permanent. Il n'y avait pas la culture de l'instantanéité. C'est-à-dire que pour qu'on les entende, ces gens-là, ils allaient chez Drucker le samedi soir ou sur scène. Et c'est vrai que le type qui allait chez Drucker, il était certain d'avoir une audience colossale. Alors qu'aujourd'hui, le type, il fait son truc sur YouTube, ça passe comme ça. Donc ça a perdu de sa rareté, donc peut-être de sa probité intellectuelle. Mais il y a des humoristes qui sont plus rentre-dedans aujourd'hui, peut-être. Mais ils sont plus nombreux. Et donc, puisqu'ils sont plus nombreux, ils ont tendance à se concurrencer les uns les autres, à être dans la surenchère. Alors que Thierry Leluron, c'est vraiment quelqu'un qui avait son univers, comme Guy Bedos avait son univers, comme Desproges avait son univers. C'était une assez belle époque de ce point de vue-là, parce que c'est des gens qui, avant de pouvoir aller dans la critique, devait savoir écrire. Ouais. Et ça, c'était très important.
Nicolas Vado, vous êtes dessinateur de presse. Vous avez été baigné, entre autres, par l'univers d'Astérix. On va en parler juste après ceci.
Jusqu'à 17h30 sur la première.
Sérieux délire.
On poursuit ce sérieux délire avec notre invité Nicolas Vado. Je le disais juste avant l'interruption, vous avez été baigné par le dessin et entre autres par Astérix. Vous racontez encore aujourd'hui d'ailleurs les Astérix à vos enfants. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'univers d'Astérix ?
Tout.
Pourquoi ?
Alors, il faut savoir que j'ai un père français, mais j'ai une mère britannique. Donc pour les Britanniques, la bande dessinée, ça n'est pas dans leur culture. Donc pour ma mère, c'était impossible de m'acheter des bandes dessinées. D'abord, ma mère, elle ne sait même pas lire une bande dessinée. Ce n'est pas quelle case elle doit choisir. C'est un truc, dans le monde francophone, on pense que ça va de soi. Dans le monde anglophone, pas du tout. Ma femme, qui est australienne, elle n'a jamais lu un Astérix de sa vie. Donc quand je lui sors des vannes d'Astérix, elle ne comprend pas. Et ce que j'adorais dans Astérix, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire, moi, j'ai dû lire mes premiers Astérix quand j'étais en âge de lire, donc vers 6-7 ans. Je me souviens, j'ai eu un anniversaire pour mes 7 ans et j'avais reçu un Astérix. Je pense que c'était le bouclier Arverne. Et puis, on les avait tous. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi.
Il a piqué la moitié des Astérix.
Quand il est parti de la maison, il a pris la moitié des Astérix. Donc, je suis en train de devoir racheter tout ce qui me manquait. Mais c'est différent parce qu'ils ont plus ils sentent plus la même manière qu'avant. Le papier est différent, donc c'est un peu dommage. Mais ce que j'aimais énormément chez Astérix quand j'étais enfant, c'est d'abord le dessin prodigieux du Derzo, qu'on peut regarder encore aujourd'hui, qui est extraordinaire. C'est d'une efficacité dans la narration et dans la construction des cases qui est fantastique. Et puis, évidemment, il y avait tout le fond de ce qu'apportait Goscinny, parce qu'on voit que sans Goscinny, c'est plus du tout pareil Astérix. Et vous pouviez comprendre ça à 6 ans en tant que petit enfant. Vous voyez Obélix qui fout des baffes aux Romains, c'était très bien. Et puis, vous commenciez à comprendre les jeux de mots petit à petit. Et puis, quand vous êtes adulte, vous les relisez et vous voyez à nouveau une critique de la société, parce que pour moi, l'humour doit toujours avoir une certaine critique de la société derrière, sinon je le trouve un peu vain. Et chez Goscinny, c'était fantastique parce qu'il y a des albums qui, aujourd'hui, n'ont absolument rien perdu de leur force. Et alors, en ce moment, moi, j'ai des enfants et j'ai un fils qui a 7 ans et j'ai décidé de lui relire les Astérix. Alors, il commence à savoir lire, mais évidemment, je fais des voix, je fais Obélix, il parle comme ça. Et c'est vachement bien à lui relire. Et je lui relis, mais parfois, j'éclate de rire à certaines vannes et lui, il ne les comprend pas. Par exemple, c'est dans, je pense, les Lauriers de César, ou non, où c'est dans Le Domaine des Dieux, il y a des Numides. Les Numides, c'est le nom antique des Africains. Et il y a quelqu'un qui dit « In ne faut jamais parler sèchement à un humide. Et moi, je dis ça et j'éclate de rire tout seul. Et mon fils, il ne comprend pas pourquoi. Mais il commence à comprendre des vannes. Ouais. Par exemple, en ce moment, on est en train de lire Astérix chez les Normands. Et vous savez, les Normands, ils ont tous un nom qui finit par AF. Il s'appelle Grosse Baffe, machin. Ouais. Et puis à un moment, il y a Obélix qui fout une baffe à un Normand et ça fait paf. Et il y a un Normand derrière qui dit présent. Ça, c'est le genre de vanne que j'adore. Et puis après, il se prend un seau d'eau sur la tronche, ça fait plaf. Et il y en a un autre qui redit présent. Donc c'est du comique de répétition. Et c'est d'une efficacité absolument redoutable, à telle enseigne que moi qui n'ai plus vraiment le temps de faire de la bande dessinée, je me suis remis à faire de la bande dessinée, notamment en relisant Astérix, parce qu'il faut toujours relire ses classiques, quel que soit le média dans lequel on est.
Et ça vous a tellement marqué jeune qu'un jour, dans l'émission On n'est pas rentré, vous avez écrit un texte sur Astérix.
Vous le savez, un nouvel album d'Astérix va voir le jour dans une semaine exactement. Je vous livre ici un scénario totalement inédit qui n'a malheureusement pas encore retenu l'attention des éditions Albert René.
Ah oui, c'est vrai.
Tout va pour le mieux dans le petit village gaulois de Belgix, qui est en paix avec les Romains, voire même avec les Ménapiens, puisque c'est comme cela que César dénommait certains Flamands.
Ouais.
Seul le druide André-Joseph Léonardix, qui s'ennuie un peu, souhaite attaquer le camp païen de Crématorium. Mais à part ça, tout va bien. Pourtant, les soupçons se portent sur un petit guerrier venu du Nouveau Monde et un peu trop curieux. Son nom, Écoute Téléphonix. Nos valeureux Gaulois étaient déjà allés visiter cette terre lointaine que sont les États-Unis d'Amérique. Ça s'appelait la Grande Traversée, souvenez-vous.
Oui.
On raconte tellement de choses à propos de ce grand pays méconnu où l'infâme chaise électrique continue à avoir pignon sur rue et organiserait bien un banquet en remplaçant les sangliers par Nizar Trabelsix, qui finirait grillé lui aussi. L'Amérique, un pays où certains centurions notoires ont laissé quelques plumes et autant d'illusions. Souvenons-nous, par exemple, de l'ancien directeur général du Fonds des Sesterces Internationales, l'inoubliable Dominicus, veux-tu goûter à mon phallus ? Par Bélédos et par Toutatis réunis. Écoute Téléphonix, jure ces grands dieux que tout cela est bien terminé et que jamais, au grand jamais, les États-Unis d'Amérique se n'ont cherché à espionner le village gaulois pour lui soutirer la recette de la potion magique qui leur serait pourtant bien utile pour foutre des baffes à Tipartix sa femme Sarah Palin, qui regarde pour leur part avec des yeux de chimère ce village gaulois où la vie est rythmée par la chasse, la violence et l'imploration des divinités.
C'est vrai.
Sauf que dans notre village gaulois, les rôles ne cessent d'être redistribués. Bart de Wever, alias National X, ressemble tellement maintenant à Astérix qu'il a laissé son costume d'Obélix à Maggie de Bloch,
qui semble être tombée
dans la potion magique quand elle était petite, tellement elle déploie une force surhumaine, lui permettant de soulever les sondages et de balancer les étrangers en situation irrégulière comme de vulgaires menhirs. François Perrin a lâché pour de bon le rôle d'Age Canonix, mais serait sur le point d'être remplacé par Arnaud Lagardère, tout simplement parce que dans la BD, Age Canonix vit en couple avec une nymphette de 3 fois sa taille et 4 fois plus jeune que lui.
Oui, c'est vrai.
Ce qui rend le couple un tantinet grotesque. Dans le même ordre d'idées, Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo avaient également été approchés, mais Johnny a déclaré forfait, ne parvenant pas à obtenir la nationalité belge et préférant du coup se concentrer sur son personnage helvète fétiche de comte planqué en Suix. Quant à Bebel, il aurait préféré le rôle d'Obélix afin de pouvoir déambuler avec Idéfix, lui qui adore les petits chiens. Malheureusement, Barbara Gandolfix l'a tellement mené en bateau qu'il a bien failli terminer coulé à pic comme les pirates dans la BD. Finalement, c'est Nicolas Sarkozyx qui pourrait mettre tout le monde d'accord, sauf que dans son cas, l'âge canonique, c'est plutôt Liliane Bettencourt. Bernard Tapix a en toute discrétion, et tel Gérard Depardieu pour lequel la série n'a plus de secret, rejoint à son tour le petit village gaulois qui résiste encore et toujours au fisc envahisseur. Sa grande différence avec Astérix à Bernard Tapix, c'est qu'il a des enfants, lui, et qu'il en a chargé un de planquer au village de Belgique le chaudron plein de sesterces sentant un peu l'oignon qu'il compte dissimuler au caisseur hexagonal. Bref, Écoute Téléphonix n'est guère avancé et s'en retourne chez lui en Amérique. Maintenant que les choses se sont arrangées pour le budget de Barack Obama le numide, souvenez-vous de ce qu'écrivait Goscinny, il ne faut jamais parler sèchement à un numide.
Ouais.
Quant à notre village gaulois, il ne sait pas vivre longtemps sans les bagarres qui ont fait sa légende et qui reprennent déjà, surtout depuis qu'Elio Di Rupo s'est gouré de BD et joue désormais dans Schtroumpf vaniteux. Tous vont donc se battre pour rejouer Acide Nitrix, le méchant ultime dans l'album qui résume si bien finalement cette petite Belgix, la zizanie.
Ah,
oui, écoutez, exercice différent quand même pour un dessinateur de presse que de devoir écrire ce genre de chronique pour une émission qui est une émission de détente, mais où on, aussi on amène à réfléchir.
Oui, c'est étonnant parce que c'est la première et la seule fois de ma vie où j'ai fait quelque chose que je n'avais, que je suis pas allé chercher. C'est-à-dire que c'est Olivier Monsens qui m'avait appelé avant de commencer, on n'est pas rentré, et qui m'avait demandé est-ce que ça vous intéresserait de faire ça. Ça m'avait un peu bousillé mon été parce que j'avais complètement stressé en me disant mais j'ai jamais fait ça, je sais pas comment je vais le faire. Et puis c'est vrai que l'appétit vient en mangeant et en écrivant notamment. Et maintenant je fais de temps en temps des chroniques écrites dans l'écho, j'ai fait quelques cafés serrés à la RTBF. Et c'est vrai que c'est un autre exercice, mais quand on est dessinateur de presse, on doit être dans l'économie de moyens en permanence. C'est-à-dire que moi quand je fais un dessin, il faut qu'il n'y ait jamais plus de 15 mots dans le dessin, sinon c'est du dessin radiophonique, c'est-à-dire qu'on peut raconter à la radio et ça va pas. Et donc, il y a des choses que je dois faire passer par l'image absolument. Et donc, quand je fais de la chronique radio, c'est le contraire. Et c'est assez jouissif parce que c'est paradoxalement moins fatigant. Parce que vous savez, quand vous êtes dessinateur, il y a un côté sportif dedans. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme un pianiste qui doit faire ses gammes. Il y a un aspect physique. Alors que quand on écrit, c'est purement intellectuel. Ensuite, il faut taper sur un clavier, mais c'est tout. Et donc, c'est un exercice qui est différent, mais j'y prends un plaisir fou. C'est vrai que quand je commence une